Onde noire, deuxième partie.
Voilà, et pour commencer, je vais vous parler de deux romans qui ont retenu mon attention, deux romans très différents l'un de l'autre, quoique finalement, l'originalité des histoires, des points de vue assez particuliers, les rapproche quand même. Le premier s'appelle « Une île bien tranquille », c'est un roman de Pascal Dietrich.
Pascal avec un « e » parce que c'est une femme.
Voilà, au bout de Pascal, un « e », et j'espère que je prononce bien le nom, Dietrich, et c'est aux éditions Liana Lévy. Roman qui est sorti début mai, très récemment. Un roman court, et j'insiste, c'est une qualité, 150 pages, 154 pages exactement, pardon. Un roman dense, et les adjectifs qui qualifient le mieux ce court roman, c'est incongru, iconoclaste. L'univers de Pascal Dietrich est particulier, grinçant, mordant, très noir aussi malgré une apparente légèreté. Et tout commence d'ailleurs avec le prénom du personnage principal. Même pour un héros de papier, ce n'est vraiment pas facile à porter, ce prénom. Edelweiss. Edelweiss, blanc comme la neige, tout un symbole dans ce roman noir.
C'est un homme ou une femme ?
C'est une femme. Edelweiss, donc, revient dans l'île bretonne de son enfance, pour enterrer son père, emporté littéralement, au-dessus d'une falaise, par une bourrasque de vent. Plutôt étonnant, se dit Edelweiss, mais les habitants de l'île n'ont pas vraiment envie de se demander si quelqu'un aurait pu le pousser ou si s'est maquillé en accident. Enfin, bref, on ferme plutôt les volets dans cette île. Évidemment, la jeune femme va commencer à fouiner. D'autant plus que la nouvelle aisance des Iliens, qu'elle connaît depuis toujours, est vraiment suspecte. Jusqu'au petit quai du coin, qui se la coule douce, dans un yacht tout neuf, et qui parade bien évidemment. Vraiment, aurait-on dit il y a quelques années, de drôles de paroissiens. Ben voilà, on aime bien suivre Edelweiss, aussi bien dans ses investigations. En fait, elle n'enquête pas vraiment, hein. Elle se contente de poser des questions à ses voisins, à son ex, à sa meilleure amie, et puis de faire des grandes balades sur l'île qui la ramènent immanquablement dans le coin de la falaise d'où est tombé son père. Et on va suivre aussi Edelweiss dans ses démêlés amoureux. Ça, à la limite, c'est ça qui est le plus compliqué. D'ailleurs, on ne lit pas vraiment ce roman, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, on ne lit pas vraiment ce roman pour l'intrigue. On devinera, et ce n'est absolument pas un défaut, on devinera assez vite quelques ressorts. Mais on sera quand même surpris par les histoires à tiroir sorties tout droit du cerveau, je dirais un petit peu allumé, de l'écrivain, donc de Pascal Dietrich. Un peu allumé, mais vraiment pour notre plus grand plaisir. Donc, chez Liana Lévy, un île bien tranquille, et je redis le nom de l'auteur, Pascal Dietrich, auteur avec un « e ». Le deuxième roman dont je vais vous parler s'appelle « Un trou dans la toile ». Son auteur en est Luc Chomara, et c'est un livre récemment paru chez Payot Rivage, dans la collection Rivage Noir. Luc Chomara, je vous en avais déjà parlé, parce qu'il m'avait bien intrigué et bien happé avec son premier roman, où un héros de roman donc, le type de roman plutôt style James Bond ou SAS, ce dont évidemment on ne vous parle jamais, venait dans le roman de Luc Chomara, Une mise en abîme, venait au secours de son créateur, en panne d'inspiration. Et bien ici, dans Un trou dans la toile, l'écrivain récidive avec une intrigue tout aussi originale et un personnage tout aussi décalé, un personnage de publicitaire, Thomas. Alors Thomas, c'est embêtant parce que il est publicitaire évidemment sur la toile, mais lui, il est et il est vraiment, il s'y connaît pas avec le monde numérique. Il déteste ça, Facebook, les web médias. Il est donc condamné, mais il n'y a pas que lui d'ailleurs, dans ce monde impitoyable que sont les start-up et l'industrie du web, à se faire licencier par la boîte où il travaille. Et au début du roman, on s'achemine doucement, on pourrait imaginer une chute lente et inexorable. Je dirais que ça aurait été un roman noir assez classique. Eh bien non, tout au contraire, repéré par une agence gouvernementale très très mystérieuse. Ça par contre c'est classique, les agences gouvernementales sont toujours très mystérieuses. Il est choisi entre tous pour dénicher, entre guillemets, l'inconnu. L'inconnu c'est le symbole des contestataires, les débranchés, ceux qui ne veulent plus, qui ne veulent pas se faire avoir par Big Brother et ne pas devenir les jouets de ceux qui manipulent l'ultra-libéralisme et consumérisme. Problème, comment piéger ce personnage, donc l'inconnu, alors qu'il n'a jamais laissé aucune trace sur Internet? Problème, peut-on même exister aujourd'hui si l'on n'existe pas sur Internet? Et pourquoi donc Thomas, comme je l'ai dit, rétif aux nouvelles technologies, est-il le candidat idéal pour débusquer ce mystérieux inconnu? Luc Chomara nous livre ici une fable très très grinçante, avec des thèmes très intéressants. En gros, aujourd'hui, l'être humain peut-il arriver à encore discerner le réel du virtuel? Et surtout, politiquement, économiquement, est-il si dissident, si contestataire, de décider de ne pas, de ne plus communiquer grâce à un ordinateur ou un objet connecté? Les nouvelles technologies sont-ils un outil pour nous ou un asservissement? Ça, c'est pas une question nouvelle, mais le thème est plutôt bien traité. Et l'écrivain, en homme avisé, ne nous donne aucune réponse. Mais les aventures de Thomas, perdues dans ces, on peut dire, les choses, je fais une petite référence au roman de Georges Perec, les gens perdus dans ces mondes où il y avait tant de choses à acheter, donc dans les choses technologiques modernes, ces aventures de Thomas, tout à la fois cocasses et tragiques, nous interpellent vraiment. À l'heure où certains géants de la sphère Internet injectent des millions de dollars afin de créer l'homme augmenté, par exemple des êtres humains dont le cerveau serait connecté directement à Internet, on ne peut s'empêcher de penser que l'on est des insectes piégés dans la grosse toile et trouver très salutaire de lire un trou dans la toile. Voilà. L'auteur Luc Chomara, et c'est chez Rivage Noir. Voilà, un petit peu de musique.
Ouais, musique. Alors là, j'ai eu moins de soucis que pour le... Bien, j'en ai pas eu vraiment, dans la première partie, puisqu'en fait, je vais vous parler après d'un roman de Caryl Ferré. Et Caryl Ferré, ce qui est bien avec lui, c'est que il nous donne dans ses romans des références musicales. Ces héros, enfin ces personnages qu'il écoute, mais en fait on sait que c'est ce qu'il écoute lui aussi. Et donc là, j'ai pris une des références musicales dans le livre. Nous allons écouter donc l'ensemble Pearl, et c'est de la musique ambiante, plutôt du dark ambiante. Hein. C'est comme ça.
Ambiante en anglais.
Ambiante, oui.
C'est oui, parce que ça faisait drôle.
Du dark ambiante.
J'espère que tu vas pas nous faire écouter de la musique d'ambiance.
Non, c'est pas du tout de la musique d'ambiance. C'est pas de la musique planante non plus. Vous allez voir, c'est très spécial, c'est très beau, c'est très bon. Mais bon, on n'écoutera pas ça longtemps, ni un dimanche soir pluvieux. Mais ce dark ambiante convient fort bien à l'ambiance du roman dont on va parler après. Thank you. donc après c'est Ensemble Pearl. Le morceau s'appelle, je ne l'ai pas dit, Painting on a Corpse. Ce qui va être pas mal non plus avec ce roman de Caryl Ferré qui s'appelle Condor et qui est paru à la série noire chez Gallimard. On a attendu 4 ans ce nouveau roman de Caryl Ferré après le fameux Mapuche qui était paru en 2012. Mapuche se passait en Argentine. Il évoquait le sort du peuple des Indiens Mapuche, mais aussi la dictature péroniste. Dans Condor, ce nouveau roman, Caryl l'avait annoncé qu'il aurait aussi pour sujet les Mapuche, mais ce coup-ci au Chili, d'où ce peuple est originaire. Enfin, le Chili, ils étaient originaires de cet endroit bien avant que ça s'appelle le Chili. Mais en situant son intrigue au Chili, Caryl Ferré ne pouvait pas ne pas parler des méfaits de la dictature de Pinochet. Dit comme ça, on pourrait penser que ce Condor est simplement un Mapuche 2. Eh bien non, car il traite les sujets de façon très différente. Néanmoins, ces deux romans forment, comment dire, un binôme littéraire à la manière un peu de la saga Maori, Hutu et Aka. Ils sont indépendants, pourtant un peu imbriqués. Si Mapuche était un roman violent, énervé, Condor est beaucoup plus apaisé. Mais tous les deux ont un autre point commun, car Caryl, on le sait ou on ne le sait pas, est un romantique déguisé en rocker. Tous les deux ont pour base une histoire d'amour. Une histoire d'amour impossible, presque improbable, de celles qui font les beaux et bons romans noirs. Dans Condor, il y a même deux histoires d'amour, dont une était bien enfouie dans le passé, et je vais vous laisser la découvrir. Bon, après ce long préambule, parlons quand même un peu de ce Condor, de ce roman. Donc le personnage principal, c'est Gabriela, c'est une jeune vidéaste Mapuche qui vit dans un des quartiers pourris de Santiago. Elle habite dans un cinéma de quartier tenu par Stefano. Stefano, c'est un ancien des services de protection d'Allende qui s'est expatrié, qui est revenu. Et elle va enquêter, du moins au début, sur la mort par overdose d'un des jeunes du quartier qui était un jeune plutôt bien, plutôt clean. Et elle va être aidée dans cette enquête par Esteban. Esteban, c'est l'avocat des causes perdues. C'est aussi le fils d'une richissime famille, riche d'un argent, disons, plutôt glauque.
Ce qu'on appelle l'argent sale.
De l'argent sale. Peu à peu, donc, la relation entre Gabriela et Esteban va se transformer en histoire d'amour. Une histoire d'amour vite désespérée, comme je l'évoquais. Mais elle va aussi leur faire découvrir des choses bien pires que ce trafic de drogue. La corruption à tous les niveaux, mais aussi les caciques de la dictature qui ont bien refait leur vie et profitent des largesses du nouveau pouvoir ultralibéral.
Ce qui est terrible, c'est qu'on retrouve ça dans à peu près tous les pays.
Qui ont eu des dictatures.
Mais... Et on retrouve ça dans tous les romans noirs.
Et on retrouve aussi, ça on retrouve régulièrement, l'éternelle ingérence des services secrets, secrets ou pas d'ailleurs, américains. Mais aussi, il va y avoir de cupides intérêts pour des ressources minières dans l'éther pourtant aride du peuple Mapuche. Caryl Ferré prend son temps cette fois-ci pour installer son histoire. Il nous amène petit à petit à découvrir à la fois la vie dans ce pays, au passé très lourd. On va se promener, si j'ose dire, avec lui dans les bidonvilles de la périphérie et dans les quartiers huppés où les nouveaux riches festoient avec les anciens bourreaux des geôles de la dictature. Et puis, dans les 150-180 dernières pages, il y en a environ 400, on retrouve la verve de Caryl Ferré, son talent à mêler l'action pure, une longue fuite, une longue poursuite dans le désert de l'Atacama, et cette action pure est parsemée de moments de pure poésie. Il y aura aussi la violence des hommes et la violence des mots. La force de Caryl Ferré, je ne vais pas vous raconter l'histoire bien évidemment, c'est qu'au-delà d'une impeccable documentation qui n'est jamais assénée...
Documentation d'ailleurs, on ne peut même pas appeler ça une documentation puisque on appelle souvent Caryl Ferré l'écrivain voyageur
parce qu'il a passé plusieurs mois là-bas. Mais voilà, et ce qui est fort chez Caryl Ferré, c'est qu'il aime ses personnages, on le sent, enfin du moins certains évidemment, mais il n'hésite pas, ces personnages qu'il aime pourtant, à déchirer leur vie, à déchirer leur âme. Et chez Caryl Ferré, la rédemption se paye toujours assez cher.
Oui, mais au prix de la chair et du sang, la plupart.
Exactement. Donc je vous rappelle, Caryl Ferré, Condor, paru chez Gallimard, série noire. Bien sûr, Condor, ça fait... allusion à l'opération Condor qui consistait à jeter des activistes, enfin,
depuis les avions
ou les hélicoptères.
Dans terrorisme, il y a terreur.
Et bien sûr, cette opération Condor va sous-tendre tout le roman, cela va sans dire.
Alors moi, je rajouterais qu'au même moment, Mapuche est sorti en livre de poche, enfin, en édition poche. Voilà,
Nouvelle réédition en poche.
Voilà. Tout à fait. Donc,
chez Folio Policier.
Vous
pouvez lire les deux.
Dans l'ordre que vous voulez.
Exactement, il n'y a pas nécessité.
Ne boudez pas votre plaisir.
Il n'y a pas nécessité d'avoir lu le premier pour lire le second et réciproquement.
Nous arrivons au terme de notre émission, donc la formule rituelle, chacun dans son coin avec un bon bouquin, jusqu'à la prochaine fois. Au revoir Jacques.
Au revoir Corinne.
Et bonsoir à tous.